France Inter. Le 7-9.
Léa Salamé, 7h48, votre invitée ce matin est autrice.
Bonjour Pauline Laveau.
Bonjour Léa Salamé.
Merci d'être avec nous ce matin. 9 mois et 9 jours et votre premier livre, c'est l'histoire d'une jeune femme, Anna, enceinte de son deuxième enfant, qui va sentir pendant toute sa grossesse que quelque chose cloche, que quelque chose ne va pas, même si les médecins se veulent rassurants. L'accouchement va très mal se passer, urgence, bébé placé immédiatement en réanimation avec des complications qui se succèdent au cerveau, au cœur, son état se dégrade. Vous racontez les 9 jours de vie de ce bébé qui ne survivra pas. On est suspendu à ces jours et à ces nuits entre la vie et la mort de ce bébé. Cette histoire bouleversante, vous la racontez sans pathos, avec une justesse, une force étonnante. Cette histoire, Pauline Laveau, c'est la vôtre.
Oui, c'est la mienne. C'est celle que j'ai vécue il y a 3 ans, à la naissance donc de mon deuxième enfant, qui effectivement n'allait pas bien, et on ne l'a su qu'au moment de sa naissance, même si moi j'en avais l'intime conviction tout au long de cette grossesse.
Voilà, en 2018 vous perdez donc Elias, 9 jours après sa naissance. De ce deuil, vous avez d'abord fait le récit sur Instagram, très suivi, sur le très beau compte 9 mois 9 jours, suivi par près de 10 000 personnes, et puis maintenant le livre. Ce livre, vous l'avez écrit pour apaiser votre deuil, pour briser le tabou du deuil périnatal qui touche quand même 8000 familles en France chaque année, ou comme un hommage, une trace écrite à votre fils disparu.
Je l'ai d'abord écrit parce que j'avais fait une promesse à Elias à l'hôpital, dans cette chambre, quand j'ai compris qu'il allait pas vivre. Je lui ai promis que je ferais quelque chose de tout ça, et que sa vie, qui a été très courte et très douloureuse, il en resterait quelque chose, et j'avais envie que le monde sache qu'il avait existé. C'est d'abord pour ça que je l'ai écrit. Alors après, j'ai fait ce compte Instagram, et c'était assez thérapeutique pour moi de raconter cette histoire. Je me suis rendu compte que ça faisait écho à beaucoup de femmes qui vivaient la même chose que moi. Et puis un peu plus tard,
on connaît tous une personne qui a perdu un enfant.
C'est exactement
ça. Une cousine, une amie.
Exactement.
C'est quelque chose qui touche tout le monde.
On n'en parle jamais, mais quand ça arrive, tout d'un coup, on se rend compte que beaucoup de gens connaissent des gens à qui c'est arrivé, dans leur famille, dans leurs proches, leurs collègues. Et tout le monde est touché de près ou de loin par ce deuil. C'est, comme vous le disiez, à minima 8000 personnes qui sont concernées chaque année.
Mais pourtant, c'est un deuil invisibilisé par la médecine et par la société, parce qu'au fond, on est tous mal à l'aise face à ça. On attend la vie et c'est la mort qui arrive. Les photos de grossesse ont été publiées sur Instagram, le berceau, la chambre du bébé, le faire-part sont déjà prêts, et on doit enterrer un enfant.
Exactement, mais c'est ça. C'est tout d'un coup, ça n'a aucun sens par rapport à ce qu'on attend. C'est la mort qui s'invite là où c'est la vie qu'on attend. Et je pense que ça, voilà, c'est difficile à concevoir, et quand ça ne nous arrive pas directement, je crois qu'on n'a pas vraiment envie de le voir.
Mais non, on n'a pas envie de le voir, et pourtant il le faut. Vous racontez l'immense solitude dans laquelle se retrouve la maman, les mamans, même si le père est là, même s'il est bouleversé lui aussi. Enfin, c'est la mère qui l'a porté pendant 9 mois, c'est elle qui a ressenti, c'est elle qui se retrouve seule face à ce bébé malade et ce bébé qui va mourir. Les proches qui répètent « tu en auras d'autres, des enfants, c'est la nature, il faut avancer maintenant, etc. » Vous dites, on ne trouve pas les mots en fait, les gens sont en face, ils n'ont pas les mots face à cette tragédie.
Non, et puis c'est le genre de phrase qu'on n'a pas envie d'entendre quand ça arrive, parce que c'est ce bébé là qu'on a perdu, et c'est pas forcément un autre, on peut pas le remplacer, on remplace jamais un bébé. Je comprends la logique de dire tourne-toi vers la vie, ça va aller, il y en aura d'autres, mais dans un premier temps, il y a ce bébé là, et c'est cette négation de l'existence de ce bébé qui est insupportable en fait, pour la femme, pour les maris aussi. Enfin, je pense que c'est quelque chose de très partagé, et le fait que voilà, il y ait cette négation d'une vie entière en fait, même si elle dure que quelques jours, c'est une vie entière en fait qui a eu lieu.
Elle est seule aussi, votre héroïne Anna, pendant sa grossesse. Et pourtant, vous le dites, le pressentiment, elle l'a dès les premiers jours, en fait, dès le premier test de grossesse. Elle sent qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est aussi 9 mois d'examens médicaux que vous racontez, entre les examens qui vont bien, qui vont la rassurer, et puis ceux où ça va pas bien, où on lui dit, tiens, c'est bizarre, le bébé a une grosse tête, ou tiens, il réagit pas. Et vous racontez cette scène lors d'une échographie où vous faites mal à votre ventre, littéralement, pour réveiller le bébé, parce qu'il dort. Qu'est-ce qui se passe? Il est silencieux, il bouge pas, venir pas bouger, vous êtes rassuré.
C'est ça, mais je crois qu'on a envie de se rassurer et qu'on s'accroche finalement aux paroles rassurantes qu'on peut recevoir. Mais effectivement, c'est l'histoire d'une intuition, c'est l'histoire de quelque chose qu'elle ressent dès le départ, qui ensuite rencontre, à mon sens, un ressenti physique, parce que quand on porte un enfant, on sait quand même beaucoup de choses de cet enfant. Et en l'occurrence, c'était un enfant malade et elle le sent, et moi je l'ai senti.
Ouais, et effectivement, vous saurez après son décès qu'il avait un défaut chromosomique, c'est ça?
Quelque chose, absolument. improbable, accidentel. Enfin, j'aurais plus de chances de gagner au loto et j'aurais préféré. Non, mais c'est quelque chose de voilà qui n'arrive pas. Et puis il y en a un sur un million et c'est tombé sur nous.
Ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous n'évitez pas les tabous. Vous cherchez vraiment à coller à la réalité du vécu des mères de ces 9 jours, les sentiments mêlés qu'elle ressent face à cet enfant quand elle le regarde. Pourquoi est-ce qu'il a les yeux écartés? Pourquoi est-ce qu'il a les oreilles mal placées? Elle saura après que c'était un problème chromosomique. Ou Anna en pleure quand elle se réveille au milieu de la nuit pour aller voir son bébé et qui déclare « Le pire, c'est que j'ai peur de mon bébé, j'ai peur de m'attacher à lui, j'ai peur de trop l'aimer. Parfois, je suis dans sa chambre et je n'ai qu'une envie, c'est de fuir, de partir loin et de ne plus jamais revenir, de ne plus jamais le revoir. »
Bah oui, parce que je pense qu'elle comprend assez tôt que ça va mal se terminer. Et en même temps, cet amour... Elle est obligée de faire avec et elle peut pas fuir. Donc c'est ça, elle dit qu'elle a envie de partir et puis elle est là tout le temps à son chevet, à passer tout le temps en sachant que ça va pas durer longtemps.
Ouais. Et puis un fou rire que vous avez à l'hôpital avec votre mari, c'est aussi ça les tragédies et c'est pour ça que votre livre est vraiment solaire, c'est que au milieu de tout, face au désespoir, face aux mauvaises nouvelles qui s'ajoutent aux mauvaises nouvelles, ils éclatent de rire dans ce rire dont vous dites on n'a jamais ri comme ça, à se pisser dessus, à en pleurer, à ne plus pouvoir s'arrêter.
Bah c'est exactement ça, mais je pense que tous les gens qui ont vécu des drames très intenses se reconnaîtront peut-être là-dedans, dans cette espèce de rire du désespoir qui remet aussi de l'humanité dans ce qu'on vit et qui se dit bon, il y a plus que ça à faire quoi.
Il y a un autre personnage important dans votre livre, c'est celui d'Irène, la médecin qui doit dire la vérité aux parents sur l'état de leur enfant sans leur faire complètement perdre espoir. Ils vont la voir en lui disant mais si les pieds bougent, regardez, il y a un réflexe et là elle leur dit non, ne vous raccrochez pas trop à certains signes. En fait, c'est très difficile pour les soignants de trouver les mots dans une situation comme ça.
Oui, c'est très difficile et c'est pour ça que j'ai voulu créer ce personnage, parce que je voulais qu'il y ait un regard croisé en fait sur une situation. Ils voient pas du tout la même chose. Donc les parents, ils sont projetés dans ce service de réanimation qui est effrayant. C'est des machines, c'est des bip bip, c'est des tuyaux qui raccrochent leur fils à la vie. Et puis il y a ce médecin pour qui c'est le quotidien et qui sait très bien ce qui se passe. Et donc voilà, je voulais raconter cette relation qui est asymétrique. Par moments, on sent qu'ils sont assez proches et qu'ils se comprennent, et à d'autres moments, ils se comprennent plus du tout. Et c'est très dur. Et c'est un médecin voilà qui dit les choses et en même temps elle doit ça, enfin il y a une limite, elle sait qu'elle peut pas dépasser certaines choses et voilà.
Et vous racontez aussi les médecins, les sages-femmes, les infirmières, celles qui sont merveilleuses, et puis ce jeune interne qui va vous opposer froideur et dureté, qui est pas du tout sensibilisé par votre histoire.
Non.
Dit allez dépêche-toi,
ouais, qui est très dur, mais je crois que si on rencontre tout ça à l'hôpital, il y a une grande humanité, et je dois dire que les infirmières, les sages-femmes, les aides-soignantes, elles sont voilà, elles ramènent aussi de la vie dans ces épreuves qui sont terribles. Et moi j'ai souvenir d'une infirmière qui chantait des comptines à mon fils bien après avoir fini de lui faire ses soins quoi, et elle était là, elle restait avec lui, elle lui chantait des comptines, et voilà, moi ça réconcilie aussi avec la vie, ça donne une force aussi pour traverser ces épreuves. Et puis effectivement parfois voilà, un interne tout jeune qui découvre son métier probablement, et qui lui c'est un problème médical, et puis tout ce qu'il y a autour, l'humain, il l'a mis de côté quoi.
L'état d'Abel va tellement se détériorer qu'à un moment vous prenez la décision avec la médecin d'arrêter l'acharnement thérapeutique. Là ce sont les pages les plus déchirantes du livre, j'ai pleuré pendant une demi-heure en lisant ces pages-là, c'est sans doute les plus belles que j'ai lues depuis longtemps. C'est les adieux à l'enfant, les dernières minutes où vous le prenez dans vos bras, vous et votre mari, et dans un ultime geste d'amour quoi.
Bah, c'est ça. Je pense que j'aurais jamais imaginé que le plus beau geste d'amour que je ferais de ma vie, c'est de laisser partir mon fils. Et c'est ce qui s'est passé.
Vous parlez dans ce livre de la situation des urgences pédiatriques, alors qu'il y a une épidémie de bronchiolite en ce moment. C'est un sujet qui vous tient très à cœur. Vous aviez lancé une pétition il y a quelques années pour dire attention, les services de réanimation manquent de lits, manquent de moyens, manquent d'effectifs. C'est quelque chose qui vous tient à cœur également.
Tout à fait, parce que bah, c'est la situation qui est en train de recommencer en Île-de-France et à Paris.
Ça veut dire quoi en fait l'épidémie de bronchiolite concrètement?
Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui doivent passer par de la réanimation parce qu'ils sont très malades et qu'ils ont besoin d'aide respiratoire. Et ça veut dire que quand les services sont saturés, pourquoi ils sont saturés? C'est parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Et pourquoi il n'y a pas assez de personnel? Parce qu'ils ne sont pas assez payés et que c'est des conditions très dures de travail. Et donc, il peut se passer qu'un enfant n'ait pas de place à Paris et qu'on l'envoie à Tours ou à Angers, avec les parents qui restent à Paris, qui doivent suivre. Donc voilà, et ça, je trouve que c'est difficile à accepter qu'on puisse vivre ça dans un pays comme le nôtre aujourd'hui.
9 mois, 9 jours, chez Fayard, Pauline Laveau, je ne peux que vous conseiller ce très beau livre. Merci beaucoup et belle journée à vous.
Merci.
Merci Léa. À tout à l'heure, 8h20. France Inter.